bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est votre émission Le Bouche à Oreille et c'est la 361e émission. Aujourd'hui, nous recevons l'association Pharmacie Humanitaire Internationale de l'Oise, la section Oise. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors, on va vous donner la parole dans quelques secondes, mais avant, je vais présenter l'équipe qui est avec moi pour réaliser cette émission. Donc, nous avons Luc à la technique. Bonjour Luc. Voilà notre marsouin. Et Alain Bron. Alain qui va nous faire une chronique et qui va m'aider dans cette émission. Donc la chronique, c'est les mots sans mots. Bonjour Alain.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Alain, comment vas-tu ?
Excellent. Mieux, ce serait insupportable.
Parce qu'on a des pharmaciens avec nous, voilà. Là, donc au cas où, on aura peut-être un diagnostic, voilà, s'il y a besoin. Donc messieurs, nous allons parler de votre association. Nous allons parler aussi de vous, de votre parcours et bien sûr des actions que vous menez en ce moment et des événements qui pourraient venir. En attendant, je voulais dire aux auditeurs qu'ils peuvent réagir sur le Facebook de RVM FM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Si vous avez des questions à poser à nos invités, nous transmettrons. Messieurs, je vous donne la parole. Qui veut se présenter en premier ? Est-ce que c'est le président ou le vice-président ? Voilà. J'ai obligé de préciser vos postes.
Voilà. Merci. Donc, Patrick Gariot, donc pharmacien retraité, pharmacien d'officine, je vous précise, retraité, qui a fait... Je fais ma carrière principalement à Méru dans l'Oise. Et depuis 6 ans, j'ai rejoint donc l'association PHI pour aider mes confrères, entre autres, parce que dans PHI, il y a quand même beaucoup de pharmaciens, à assurer donc... Cette mission d'aider les autres, d'une part par l'apport de médicaments que nous achetons, entre autres, et aussi de médicaments principalement. C'est ça notre mission en premier.
Donc vous êtes le président de l'association, Patrick.
Je suis le président depuis quelques mois.
Ah, d'accord.
Parce que l'ancien président a préféré quitter pour des raisons qui lui regardent. Voilà, donc j'ai pris la présidence.
PHI.
Pharmacien humanitaire international. C'était peut-être plus connu avant sous le nom de Pharmaciens sans frontières.
Oui.
Mais il y a à peu près une quinzaine d'années.
Pratiquement 20 ans maintenant.
20 ans, donc. Il y a eu un changement et c'est le PHI. Donc nous, on est l'antenne de l'Oise, mais il y a des antennes un peu dans toute la France.
Ouais, on va en parler juste après. On va laisser Pascal se présenter, même si Pascal est déjà venu à l'antenne.
Oui, j'ai eu l'occasion de partager le micro il y a quelques semaines. Donc je m'appelle Pascal Rossignol, je suis également pharmacien retraité depuis 6 ans. J'ai fait toute ma carrière en tant que titulaire à Verberie, pas loin de Crépy-en-Valois. Je suis engagé dans le milieu associatif depuis mon adolescence. J'ai commencé par être moniteur de colonies de vacances. Ensuite, j'étais organisateur d'un événement qui s'appelait Amiens Jeune, qui consistait, pour le réveillon de Noël, d'accueillir entre 1500 et 1600 personnes âgées dans 5 ou 6 salles d'Amiens. Et avec des chauffeurs bénévoles qui allaient chercher les gens, des jeunes comme moi qui organisaient la soirée, des musiciens bénévoles, des chanteurs bénévoles. Et ces personnes âgées étaient invitées pour partager le repas du réveillon de Noël. J'ai cessé quand j'ai fini mes études. Et ensuite, j'ai été président de l'école de musique de la Croix-Saint-Ouen. Comme Patrick, participait au syndicat des pharmaciens et membre actif de PHI depuis ma retraite, depuis 2016. Voilà, résumé mon parcours.
Eh bien, c'est un long parcours, oui. Alors, vous avez intégré cette association-là, donc vous la connaissiez déjà avant, bien sûr.
Oui. Moi, personnellement, j'étais adhérent en Pharmaciens sans frontières, comme Patrick, depuis le début.
D'accord,
quasiment.
D'accord, voilà. Donc vous aviez déjà...
Depuis le début des années 90.
Vous étiez déjà imprégné des actions qu'elle menait, cette association-là. Alors, on peut présenter l'association maintenant, parce que là, on a nommé PHI. on va parler comme vous, on va dire PHI, Alain. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Et donc, quelles sont les principales actions qu'elle mène, cette association, Alain ?
Alors, Pharmacie Humanitaire Internationale, c'est une galaxie d'associations locales un peu partout en France. Maintenant, à peu près 25 associations départementales ou régionales. Et donc, PHI Oise est l'antenne locale du département. Cette association s'appelait donc auparavant Pharmaciens sans frontières, qui avait été créée au début des années 90. Et à l'époque, l'action principale qui était celle de Pharmaciens sans frontières, c'était de collecter les médicaments non utilisés, de les trier et d'envoyer ceux qui pouvaient être utilisables soit en France, soit dans des pays étrangers qui en faisaient la demande. Une loi en 2009 a interdit l'utilisation de ces médicaments, donc nos actions se sont transformées. Et donc, en ce qui concerne l'Oise, notre principal moyen de financement, c'est la collecte des radiographies, puisque jusqu'à ce qu'elles passent en numérique, en 2003 ou 2004, dans les radiographies, il y avait des selles d'argent, c'était des pellicules photo en fait, hein. Et donc, nous collectons ces radiographies. Une entreprise de recyclage vient entre 2 et 3 fois par an rechercher les radiographies que nous avons triées entre les numériques et les argentiques et nous rétrocède le montant de l'argent qui a été récupéré par le processus du recyclage. Et c'est quasiment notre principale source de revenus.
D'accord. Vous n'avez pas de subvention par le département ou la région ?
Des petites subventions de la mairie de Senlis et de la mairie de Creil.
D'accord.
Représentent un sixième ou un septième de notre budget annuel.
Ouais, parce que Creil, notre antenne est à Creil. Notre antenne est à Creil et Creil nous prête gracieusement un local, un petit local, mais enfin un local. Et ça nous permet de stocker nos radios, de les trier. Voilà. Mais le local est trop petit par rapport à d'autres PHI pour ramasser du matériel médical. Certains secteurs ont des grands hangars, ils peuvent prendre du matériel médical, des lits, etc. Nous, on ne peut pas. Donc nous, on se contente que de la radio.
Voilà.
Ce qui est déjà pas mal.
Donc, on va passer un message à la mairie de Creil. Alors, si vous avez un local un peu plus grand, hein, ou une autre commune peut-être qui écoute l'émission. Hein.
Alors, d'ailleurs, si on peut passer le message, amenez vos radiographies dans votre pharmacie locale et nous chargeons, bien sûr, de les récupérer ensuite dans les pharmacies.
Et je rajoute, si le pharmacien n'est pas au courant de cette histoire, que le client lui dise. PHI, monsieur. Téléphonez à PHI. Le pharmacien trouvera bien l'adresse de PHI. Il nous envoie un mail, un coup de téléphone, etc. Et nous, on va les chercher tout de suite. Comme ça, voilà. Il est tranquille, il est débarrassé. Voilà. Et malheureusement, à l'heure actuelle, sur les 200 pharmacies de l'Oise, je trouve qu'il n'y a pas assez qui font ce geste.
Pas assez.
Pas assez. Alors, c'est vrai, mettre un carton dans sa boutique en disant « on récupère les radios », bon, c'est pas très vendeur, mais pour nous, c'est important.
Tu vois, Fred, eux aussi font la radio.
On est dedans, là, hein, on est bien. Hein. Bon, écoutez, nous, je ne sais pas ce qu'on pourra récupérer, mais en tout cas,
pour
voilà.
Pour fixer un peu les idées, il y a 10 jours, ou un peu plus, 2 semaines, la société de recyclage est passée à notre local et a récolté 1,1 tonne de radiographies.
1,1 tonne.
Donc, Patrick
énorme.
Et moi,
qui
avions la tâche la plus difficile, qui était de lever les caisses pour les emmener vers le container, on a transporté 1,1 tonne chacun de radiographies en 1 heure.
Voilà. J'espère que vous avez un bon pharmacien, alors. Hein.
Oui. Ouais. Et puis, alors, cette 1,1 tonne, elle est quand même triée.
En plus.
Donc, avant qu'on la donne comme ça, on trie radio par radio.
Eh bien, dis donc.
Alors, on est 5, 6, 7. Il y a nos épouses qui viennent aussi nous aider. Nos épouses qui sont pharmaciens aussi.
En plus, voilà. Et donc, ça, c'est un travail de longue haleine, alors, parce que ça, c'est sur un an de collecte, à peu près.
C'est entre 4 et 6 mois.
Ah oui, donc ça va vite. Donc, vous collectez beaucoup quand même.
Oui, on essaye, oui.
On a la chance d'avoir, je vous dis des pharmaciens, on a la chance aussi d'avoir quelques entrées dans des déchetteries. Alors les déchetteries, certaines, assez gentilles, les mettre de côté, puis donc on va les chercher. ce qui n'est pas bon. Après, il y a d'autres systèmes où les déchetteries ont déjà des contrats avec...
Oui, ils recyclent déjà aussi.
Bon, ouais, voilà, ouais. C'est pas toujours facile.
Et alors, du coup, une fois que vous avez fait ça, cet argent est utilisé pour vos actions, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
Alors, on peut en citer quelques-unes d'actions, avant qu'on rentre dans le détail de certaines, bien sûr?
Oui. Alors, nous sommes, pour l'Oise, en relation avec, principalement avec deux sites. L'un au Togo, au nord du Togo, pratiquement à la frontière du Burkina, dans un gros village qui s'appelle Dapaong, où se trouve un hôpital pour enfants avec lequel nous sommes en relation depuis plusieurs années, je dirais bien 5 ou 6 ans. Et donc nous leur avons fourni des produits pédiatriques. Alors, oui, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous n'envoyons jamais de produits à l'étranger. Nous nous assurons de la qualité de nos partenaires. Lorsque nous sommes sûrs de la qualité du partenaire, nous contactons le grossiste national de médicaments à qui nous envoyons un virement et notre partenaire reçoit la commande qu'il a passée à ce grossiste. D'accord. Voilà. Donc nous sommes en relation avec Dapaong pour l'hôpital pédiatrique. Pour la dernière action, nous leur avons fourni des nutriments pour les enfants sous-alimentés. Et puis alors, on a une autre action au Sénégal, dans un village qui s'appelle Mboyo, qui se trouve au bord du fleuve Sénégal, à la frontière de la Mauritanie, où là se trouve un poste de santé. Nous sommes entrés en relation avec eux parce que l'association locale de ce village a pour siège Trasilval, donc au nord de Compiègne.
Ah oui.
Et donc, nous leur avons fourni, même chose, de quoi soigner des médicaments. Au moment du Covid, du gel hydroalcoolique, de l'eau de Javel, des masques.
Nous achetons toujours là-bas.
Hein. Voilà. Oui, toujours. Hein. Parce que de toute façon, bon, cela coûterait beaucoup trop cher. En plus, le transport a encore augmenté avec les problèmes liés au Covid. Et les problèmes chinois. Donc ça coûterait beaucoup trop cher d'envoyer des produits achetés ici, que nous achèterions plus cher qu'en Afrique. Donc on préfère financer là-bas, bien sûr en étant sûr que ça arrive au bon endroit. Hein. Et donc avec ce village de Mboyo, nous continuons d'avoir des relations fréquentes. Et on a un projet, un gros projet, qui est sur la table, en partenariat avec d'autres associations locales de PHI, pour la construction d'un local de maternité, parce qu'il y a une sage-femme qui est en poste, dans ce poste de santé à Mboyo, mais elle n'a pas de local. Il y a un local, mais qui est absolument vétuste. Et donc, on essaye de trouver le financement pour réussir à réaliser cette construction là-bas au village de Mboyo.
Est-ce que vous faites le suivi? Vous allez là-bas? Vous allez visiter?
Alors, nous avons la chance d'avoir quelqu'un de PHI, d'une autre antenne, qui est l'habitude de l'Afrique et qui a été là-bas plusieurs fois. Donc ça nous aide, bien sûr. Parce que, premièrement, savoir si les besoins qu'ils demandent sont justifiés, oui. S'ils correspondent, s'ils sont justifiés, s'ils correspondent bien... Voilà. Et ce monsieur s'est mis en rapport avec l'hôpital de Saint-Louis, hein, c'est ça, je ne dis pas de bêtises.
Oui, l'hôpital
de Saint-Louis, oui. Parce que c'est l'hôpital de Saint-Louis qui, de temps en temps, envoie du personnel à Mboyo. Donc, Saint-Louis, s'il nous dit, bon, oui, il faut bien une maternité là-bas, c'est bien, mais il va nous déterminer ce qu'il faut, etc., etc., de la surdimension ou de la sous-dimension, enfin faire quelque chose qui correspond aux besoins de la population. Parce que si on demande à la population, au maire de Mboyo, évidemment, il veut le plus grand possible, etc., ce qui est logique, bon. Mais il faut que ça soit... Parce que si il faut que ça serve, et pour se faire servir, il faut bien qu'il y ait du personnel de Saint-Louis qui soit d'accord pour aller là-bas. Oui, parce oui. que construire un bâtiment, il n'y a rien dedans.
Oui, si c'est pour faire une coquille vide, ce n'est pas la peine.
Voilà. Donc là, c'est un gros projet financier. Donc on a besoin, comme disait Pascal, de plusieurs antennes avec nous, locales. Peut-être aussi PHI National de mettre un peu d'argent, parce qu'il y a PHI National aussi. Ça, c'est un gros projet. Alors là, il va être un petit peu freiné à cause de l'Ukraine, peut-être un peu, parce que bon, oui. là, on est tous sur l'Ukraine en ce moment.
Oui, parce que depuis que la guerre a commencé en Ukraine, toutes les associations locales de France et notre association nationale, et donc nous y compris, nous sommes polarisés sur l'Ukraine. Et donc, nous avons organisé des actions locales pour l'Ukraine que nous continuons. Parce que, comme vous le savez, la guerre continue malheureusement.
Oui, donc justement, ce sujet de l'Ukraine, moi je pense, on en discutait un petit peu avant l'émission, pour le blé et tout ça, les conséquences vont être terribles pour les pays d'Afrique, et dans le monde entier,
oui.
mais notamment l'Afrique, puisqu'ils n'ont aucun moyen de
oui,
cultiver ou de faire des choses comme ça.
Donc, en plus, notamment au Togo, le Togo souffre d'une sécheresse qui est quasiment centenniale, qu'ils n'ont pas connue depuis des dizaines d'années. Le désert avance et donc ils ont encore plus besoin de disposer de nourriture. Et d'ailleurs, à l'hôpital de Dapaong, l'une des principales maladies dont souffrent les enfants, c'est la malnutrition.
Oui. Donc là, ça va être important pour vous. Vous allez peut-être pouvoir aider sur ce problème-là.
On continue à les aider, bien sûr.
Oui, dans notre budget, on va toujours continuer à aider ces... Mboyo comme Dapaong, parce qu'on ne peut pas les laisser tomber. Bon, on peut pas... Bien sûr, il y a l'Ukraine, mais on aura quand même des choses dédiées.
Ouais. Les conséquences vont être mondiales. On va donner la parole à Alain, peut-être. Alain, si tu veux faire ta chronique. Hein.
Mots sans mots.
Je suis bien content de parler de pharmacie aujourd'hui. Parce que les... Et puis d'avoir affaire à des pharmaciens généreux, parce que la pharmacie n'a pas eu une très bonne image. Le mot pharmacie, d'abord, vient du grec. Quand il y a des PH, en général, on se doute que ça vient du grec. Ça veut dire usage de drogue, au départ.
Oui.
Alors,
ça veut même dire poison.
En plus,
on commence
drogues,
bien alors.
Pharmacone, ça veut dire poison,
évidemment. Mais pendant des siècles, on a appelé les pharmaciens les apothicaires. Alors pourquoi apothicaire? Parce que là aussi, ça vient du grec. Ça veut dire magasin, tout simplement. Et les apothicaires sont nés au XIVe siècle, quand, après les grandes découvertes et puis les richesses qu'on apportait des Indes, notamment, du poivre, des condiments, des choses comme ça, les pharmaciens d'époque, c'est-à-dire les apothicaires, vendaient en très petite quantité et très très cher les aromates et puis ce qu'on trouvait, en fait, dans les pays lointains. Alors, ça a donné compte d'apothicaire.
Ah oui, les comptes d'apothicaire.
Pourquoi compte d'apothicaire? C'est un calcul compliqué en général, mesquin, et que l'on présume exagérément majoré. Alors pourquoi ça? Parce qu'effectivement, il y a eu des pratiques, comme les produits étaient rares, et il y a eu peut-être un petit débordement sur le prix des denrées. Mais cette expression est restée très, très, très longtemps. Elle a été même quasiment sacralisée au XIXe siècle. Quand on sait que les apothicaires, à l'époque, vendaient du sucre, qui était un produit très, très rare, on pouvait se demander s'il était vraiment nécessaire de saler la facture.
Oh. Dis donc, bravo, Alain.
T'es en forme aujourd'hui. Oui. Alors, ces apothicaires, on les appelait potards, dans le jargon. Ça vient tout simplement du nombre de pots qui étaient sur les étagères des apothicaires à l'époque. Il y avait beaucoup, il n'y a plus ça maintenant, sauf dans des décors un peu datés. Beaucoup, beaucoup de pots, et donc potards. Alors vous allez me dire, et potin? Mais potin vient aussi de pots.
D'accord.
Mais c'est pas du tout le même pot. Potin vient d'un petit pot en terre cuite qui servait à se réchauffer les pieds ou les mains à la veillée le soir, et dans lequel on mettait des braises. Alors, vous voyez le décalage, le glissement de sémantique. Vous avez le potin en terre cuite avec les braises, comme on discutait beaucoup, et à mon avis on picolait aussi beaucoup, ça donnait des commérages, donc des potins. Et quand vous me dites « ça va faire du potin », il y a eu un deuxième décalage pour exprimer que ça va faire du bruit, tout simplement. D'accord. Voilà donc pour potin. Les drogues, maintenant, on ne sait pas trop. Ça viendrait soit du mot « drogue », qui veut dire « sec » en néerlandais. Pourquoi le néerlandais ? Parce que c'est eux qui ont importé les premiers des substances en poudre. Des pays du sud-est asiatique, notamment. Ça voudrait dire, de l'italien droga, qui veut dire la dragée. On voit la similitude avec les médicaments, enfin les pilules. Et puis, peut-être du latin derogare, qui veut dire déroger, diminuer, sous-entendu diminuer la douleur. Bon, on ne sait pas trop. Je laisse les trois suppositions. Ce n'est pas toujours la plus évidente qui est la plus vraie. Donc, pour l'instant, je vous laisse à votre réflexion. Médicaments, à présent, ça vient du latin medicamentum, qui veut dire la même chose, c'est-à-dire qui est un remède qui donne du soin. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ça n'a pas changé. Du tout. Quant à malade, qui s'écrivait en vieux français malabde avec un B, tout simplement parce que ça vient du latin male habitus, qui veut dire se tenir en mauvais état, donc malade. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait un B dans habitus. Alors, comme vous travaillez sur des moments catastrophiques, comme la guerre en Ukraine notamment. Le terme catastrophe, lui aussi, vient du grec. C'est kata, qui veut dire aller vers le bas, pouce en bas, comme on dirait aujourd'hui. Et ça suscite une compréhension de déchéance, de choses qui ne vont pas aller en s'améliorant de toute façon. Et strophe, comme la strophe, c'est du grec aussi, ce qui veut dire retournement ou fin d'une première série. Donc, fin d'une première série qui tourne, en fait, à la cata.
Voilà. C'est la cata.
C'est la catastrophe. Voilà.
Enfin, blessé, et je crains, on n'a pas donné des chiffres sur l'Ukraine, mais... ou plus exactement les chiffres qui traînent en ce moment, c'est plus de 15 000 morts soldats et puis plus de 40 000 blessés soldats aussi, sans compter la population civile. Ça fait beaucoup, beaucoup de blessés. Le mot blessé est assez intéressant parce qu'il vient d'un très vieux verbe français qui s'appelait blessier et qui voulait dire rendre blette. Et le mot blette, ça veut dire en fait blessé. Quand un fruit est blette, c'est-à-dire qu'il est blessé au départ. Oui. Voilà, et je terminerai par un mot de Jules Romain. Pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Jules Romain, c'est dans Knock, le triomphe de la médecine, bien sûr. Merci à vous.
Merci Alain.
Merci.
Voilà. Bah, écoutez, on a avalé la pilule, hein, sans problème. Hein. Ça s'est bien passé. Hein. Dis donc. Alors, vous êtes apothicaire encore ou non? Non, vous êtes retraité, vous, maintenant.
Hein, retraité, donc,
Mais ce mot, vous l'aviez connu, apothicaire? Oui.
Potard aussi.
Potard aussi, oui.
Ouais, potard, mais un peu d'une façon péjorative. Dites souvent dans les études par les étudiants, par exemple en médecine.
Ah oui.
Les potards.
Ils employaient cette expression.
Oui, ça, j'ai assez souvent, oui.
Oui, c'était un peu péjoratif.
C'est un peu péjoratif, hein, potard. Par mais contre, je ne savais pas que ça venait du mot pot, vous voyez. J'avais jamais fait le chose.
Ah, c'est pour ça qu'on invite Alain, hein, pour qu'il nous donne des renseignements sur les mots. Hein, donc, il bosse.
Par contre,
hein.
Apothicaire, bon, à part l'expression compte d'apothicaire, n'était plus utilisée, je pense, depuis la fin du 19e siècle, à peu près. Hein,
oui.
Puisque, pour revenir un peu à la littérature, dans le roman de Stendhal, Madame Bovary, oui, oui. C'est pas Stendhal, c'est Flaubert, pardon. il y a Monsieur Homais qui est pharmacien de première classe. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait les pharmaciens de première classe et de deuxième classe.
Et justement, Alain, on sait à quel moment ça a basculé, qu'on a appelé les pharmacies.
Oui, c'est au 19e siècle.
19e siècle, d'accord. C'est pas si vieux que ça. Hein.
Oui, oui, oui.
D'autre part, les Allemands continuent à dire apothèque.
Apothèque.
Donc il y avait les pharmaciens de première classe, de deuxième classe. Après, il n'y avait plus que pharmaciens, tout simplement. Hein. Et puis depuis 25 ans, 30 ans, maintenant, on a le titre de docteur en pharmacie.
Docteur en pharmacie.
C'est pas le titre. Ouais. On passe une thèse, donc on est docteur en pharmacie, c'est bac plus 6. Avant, c'était 5, et c'est bac plus 6. Comme les chirurgiens dentistes, ils l'ont fait ça 10-15 ans avant nous. C'est pareil, ils étaient dentistes, maintenant ils sont docteurs en chirurgie dentaire, depuis une quarantaine d'années.
Ouais, ouais.
Voilà.
C'est-à-dire que ça vous donne plus de compétences, c'est ça ou...
Non.
C'est une année d'études supplémentaires.
Déjà,
oui. Oui, et d'autre part aussi, c'était un peu pour, l'Europe. Parce que l'Europe permettait quand même la venue de personnes diplômées qui avaient un titre de pharmacien, mais qui n'avaient pas du tout le même nombre d'études que nous. Enfin, je suis pour pharmacien, mais pour d'autres professions aussi. Donc il fallait un peu stabiliser ça, et donc dire pharmacie en France, c'est 6 ans. Donc quand un pharmacien belge, roumain, etc., ou même un médecin, voilà, c'était un peu pour harmoniser aussi au niveau européen, parce que voilà, tout le monde a le droit d'exercer. En France.
Oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'Ukraine, parce qu'on a évoqué l'Ukraine.
Ah oui.
Comment vous soutenir sur cette opération? Parce qu'on en avait parlé avec Pascal il y a quelques semaines. Hein. Comment ça évolue? Est-ce que les choses ont changé ou
pour revenir un petit peu en arrière, c'est vrai que je pense que, comme tous les Français, on a tous été bousculés, choqués par cette guerre... cette invasion par les Russes, d'un peuple où la démocratie a été mise en place depuis fort longtemps, et un peuple qui ne demandait rien à personne, en fait. En venant, j'ai eu l'idée de lire l'hymne ukrainien. Et je vais vous lire juste le début. « Ni la gloire ni la liberté ne sont mortes en Ukraine. La chance nous sourira encore, jeunes frères. Nos ennemis périront comme la rosée au soleil. Et nous aussi, frères, vivrons heureux dans notre pays. Pour notre liberté, nous n'épargnerons ni nos âmes, ni nos corps, et prouverons, frères, que nous sommes de la lignée des Cosaques. »
Ah oui.
Je trouve que c'est bien plus beau que la Marseillaise.
Oui, oui, oui.
Et... à partir du moment où on a vu ça, je crois que l'émotion a été générale. Et PHI, évidemment, a manifesté l'envie de faire quelque chose pour l'Ukraine. Donc, il y a eu des choses au niveau national. Et nous, localement, on a mis en place deux choses. D'une part, des tirelires dans les pharmacies. Dans chaque pharmacie du département. Donc, Patrick et moi, on en vont distribuer...
On a distribué beaucoup de kilomètres.
Plusieurs dizaines. On a fait beaucoup de kilomètres dans tout le département. Et pour collecter simplement des espèces, puisque la tirelire était posée sur le comptoir des pharmacies. Et puis, une deuxième action qui avait été initiée au départ par la ville de Beauvais, avec le concours de l'hôpital, le centre hospitalier de Beauvais, qui réunit des dons au départ seulement de l'agglomération de Beauvais, et nous, PHI, l'avons élargi à tout le département, de collecte de pansements, de dispositifs médicaux et de médicaments, mais neufs, sortant des pharmacies qui sont regroupées à Beauvais et dont l'hôpital de Beauvais assure l'expédition vers l'ouest de l'Ukraine.
Donc vous recentralisez tout sur Beauvais.
Voilà.
À Beauvais, donc, ils ont fait déjà trois convois, trois semi-remorques. Donc ils centralisent tout. Alors donc dans les semi-remorques, vous avez tout. Vous avez de l'alimentaire, vous avez de l'hygiène, etc. Et vous avez bien sûr du médical et paramédical. Alors nous, tout ce qu'on nous on récupère PHI dans les pharmacies, on le récupère chez nous. Donc on fait nous un tri déjà.
D'accord.
C'est-à-dire pour retirer les MNU, médicaments non déjà utilisés. Donc ça c'est même s'ils sont encore bons, mais ils ont déjà été ouverts. Ça c'est
interdit les envoyer.
Interdit. Et on récupère quand même donc des médicaments que les gens ont achetés. Donc on a récupéré par exemple beaucoup de Doliprane ou des choses comme ça, parce qu'ils achètent une boîte de Doliprane qui ne coûte pas cher. Et ils disent, ça, vous donnerez ça pour l'Ukraine, etc. Donc beaucoup de choses comme ça, des désinfectants. Et on récupère aussi quand même beaucoup de pansements compresses. Si vous préférez, quand vous avez un problème, parfois, on vous prescrit des compresses et beaucoup plus que vous en avez besoin. Et les compresses, par chance, maintenant, sont des sachets individuels, avec une date sur chaque compresse, enfin sur chaque sachet. Donc, on sait la péremption. Donc, on connaît la péremption. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un produit propre et qui peut être utilisé. Donc, beaucoup de compresses, de pansements spéciaux, etc. Donc là, c'est plusieurs palettes à chaque fois qui viennent vraiment de médicaments, deux, voire parfois trois palettes qui sont dans ces camions envoyés par Beauvais. Et on rajoute aussi parfois un petit peu de matériel, des petits matériaux de type canne anglaise, déambulateur, voilà, qu'on rajoute, que les pharmaciens récupèrent chez leurs clients, que les clients leur donnent, etc.
D'accord. Donc là, l'opération continue alors ?
Alors l'opération tirelire continue. Bon, nous avions fixé une date limite à la fin du mois de mai, mais pour certaines pharmacies, je pense que ça va continuer. Et la collecte de produits continue tant que la guerre durera, puisque les besoins sont permanents. Vous parliez tout à l'heure des blessés, du nombre de blessés. Et il y a des besoins que notre petite association est incapable, auquel notre association est incapable de répondre elle toute seule. Mais la réunion de toutes les initiatives fait qu'on arrive à aider ce peuple en souffrance.
Voilà. Donc pour les collectes, les gens vont directement dans les pharmacies.
Donc dans la pharmacie, dans leur pharmacie de proximité, et soit ils ramènent des articles qu'ils ont chez eux, soit ils achètent et ils laissent à la pharmacie ce qu'ils achètent.
Voilà. Très bien.
Alors, à ce sujet, on a demandé aux pharmaciens, quand les gens achètent des produits chez eux, on a demandé aux pharmaciens d'abonder. C'est-à-dire que s'ils vendent, 100, je dirais un chiffre comme ça, 100 euros de produits pour l'Ukraine, on leur demande aux pharmaciens d'abonder aussi de 100 euros, de mettre la main à la poche. Et certains le font, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on ne veut pas faire du bénéfice sur l'opération Ukraine. Les tirelires ont un autre avantage, permettent aussi aux pharmaciens, ils récupèrent ce qu'il y a dans la tirelire, et puis ils peuvent abonder aussi. Donc ce qui permet d'avoir des choses plus importantes. Là, on a eu une pharmacie dans le Compiègnois, quand même mis un chèque de 1 000 euros. Bon, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Donc ça, c'est important. Et on continue. Ça, il faut continuer, je pense. Et cet argent pour l'Ukraine n'est pas mélangé avec notre PHI, je dirais,
national.
Voilà. Les autres actions que vous menez,
oui. Voilà, c'est PHI Ukraine. Donc il y a un compte PHI Ukraine. Et cet argent sera réservé que pour l'Ukraine. L'Ukraine ou les pays limitrophes qui aident l'Ukraine, c'est-à-dire un hôpital la limitrophe. Et peut-être, PHI, on va peut-être aider à payer un transport. Donc si l'hôpital de Beauvais le demande, on fait une demande au siège de PHI, et PHI dans la caisse Ukraine regardera le dossier s'il est valable, bien sûr, on ne donne pas d'argent comme ça, et on paiera aussi la logistique, parce qu'il faut transporter ces produits. Alors au début, il y a eu beaucoup de bénévolat, etc., mais quand il y a des transporteurs, ça a un coût, même s'il fait au minimum de prix. Bon, il y a le carburant, il y a le chauffeur, il y a tout. Hein. Donc,
voilà. Oui, parce que pour compléter ce que dit Patrick, en fait, notre association nationale PHI a organisé une collecte de dons sur son site internet, dont je peux donner l'adresse, www.asso.phi.fr, www.phi.asso.fr. Et sur le site internet, il y a Don Ukraine. Et cette collecte est nationale. Et je sais que nous en sommes à une somme à 6 chiffres hein, sur la collecte nationale, qui va permettre de répondre aussi bien à des demandes locales, comme celles dont parlait Patrick, que à des demandes plus générales. Pour citer un exemple, le maire de Kharkiv, qui est quasiment sur la ligne de front au nord-est de l'Ukraine, a envoyé un message à notre président national en lui demandant si il pouvait envisager l'envoi de fournitures médicales pour les hôpitaux de Kharkiv qui ont souffert des bombardements et dans lesquels il y a des besoins qui vont aussi bien de la chaise que du lit ou et puis des choses plus médicales, des pieds à perfusion et évidemment médicaments d'urgence, anesthésique pour les gens qui doivent être opérés, etc. Voilà.
Très bien. Mais écoutez, on revient de suite. On écoute votre choix musical et on retrouve les auditeurs.
Avec plaisir.
Vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui l'association Pharmacie Humanitaire Internationale, la section OASE, on va bien préciser les choses. Et donc je suis en compagnie de Alain pour les accueillir, Alain Bron, de Luc à la technique, et nos invités sont Pascal Rossignol et Patrick Gariot. Donc les auditeurs, si vous voulez réagir à cette émission, il y a le Facebook de RVM FM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Votre choix musical, John Lennon. Pourquoi? Parce que ça vous touche?
Ah,
ça...
Bah, les paroles d'Imagine, si on lit la traduction, c'est une chanson d'espoir, en fait. D'espoir et d'unité entre les hommes. Imagine, par les temps qui courent.
Imagine, c'est un monde meilleur. Imaginer un monde meilleur, sans guerre.
Ça ne peut pas être plus difficile hein, d'imaginer un monde meilleur, je pense. Hein, donc,
oui, hein. C'est vrai que quand on regarde certaines émissions avec les horreurs qui sont passées à... Il y a peu de temps, j'étais à Roidour-sur-Glane. Donc on voit ce qui s'est passé à Roidour-sur-Glane, on dit, eh ben, 70 ans après, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé.
Ça reste,
l'homme est toujours aussi mauvais. Alors, c'est horrible ce qui s'est passé, mais on fait aussi pire, même pire encore maintenant. Enfin, c'est...
On n'a pas retenu les leçons du passé, quoi.
Non.
On continue. L'homme n'est pas bon, quoi.
Certains hommes.
Oui, c'est bien précisé, quand même. Voilà. C'est pas la majorité, quand même, qui est mauvaise.
Oui.
Alors, on va revenir quand même sur l'association, parce qu'on est là pour parler de votre association. Donc, quels sont les rapports entre la section Oise et au niveau national? Qu'est-ce que vous faites en commun?
Alors, en commun, actuellement, nous avons deux choses. D'une part, nous participons à la collecte nationale, à la mise en avant de la collecte nationale pour financer les actions à haut niveau de PHI. Qui dépasse largement notre budget, puisque nous avons dans l'Oise un budget de l'ordre de 6 à 7 000 euros par an, et celui de PHI National dépasse le million d'euros. Hein, donc,
c'est pas la même échelle. Ouais.
C'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle. Et d'ailleurs, PHI National gère aussi en même temps le seul grossiste en médicaments humanitaires de France. C'est-à-dire que toutes les associations, comme par exemple Médecins du Monde, ou Médecins sans frontières, ou la Croix-Rouge, quand elles ont besoin de médicaments pour leur centre de soins en France et à l'étranger, commandent les médicaments à PHI, à Nîmes. Donc c'est le seul grossiste humanitaire de France.
D'accord. Voilà. Donc ils ont cette compétence-là que,
voilà.
C'est les seuls en France,
Oui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la Caisse nationale d'assurance maladie verse une subvention très importante pour le financement de notre grossiste à Nîmes. Donc, en ce qui concerne les actions auxquelles PHI Oise est lié à PHI National, il y a l'action en cours concernant l'Ukraine, la collecte de dons que nous médiatisons... nous avons publié un communiqué de presse et puis tous les journaux locaux, départementaux, télévision régionale et RVM qui nous aident ont participé à cette médiatisation donc de la collecte de dons. Et puis, donc ça c'est pour l'Ukraine. Toutes ces actions sont en dehors des budgets habituels. Donc le budget habituel ne rentre pas là-dedans. Et en ce qui concerne les actions permanentes, on va dire, nous avons entrepris, sur la demande de notre président national, il y a eu un appel à projet pour que plusieurs associations locales travaillent ensemble à un projet de plus grande envergure. Et donc, nous avions contacté le responsable de l'association du village de Mbouyo, donc, qui est situé au nord de Compiègne, à Tracy-le-Val, et il nous a parlé d'un projet de construction d'une maternité dans ce village de Mbouyo, où sont déjà en poste un infirmier et une sage-femme. Donc, nous sommes 5 ou 6 associations locales un peu partout en France. Il y a celle du Vaucluse, je ne sais plus. Donc, le projet, c'est de construire un local où, avec salle d'accouchement, salle de soins, salle pour ranger les médicaments, salle de distribution de médicaments pour les personnes qui viennent simplement en consultation. Et aussi, mais à part, un logement pour la sage-femme et un logement pour l'infirmier du poste de santé.
Ah oui, donc c'est bien étudié quand même.
Voilà, oui. Alors donc on a eu le chiffrage, on est encore en phase d'étude, et puis la guerre en Ukraine est arrivée, ce qui fait que la maternité est un petit peu passée de côté pour l'instant, mais on ne perd pas de vue ce projet. C'est un local qui, pour la maternité, dont la surface serait à peu près de 160 mètres carrés, parce que pour l'instant, il y a un local, mais qui est dans un état de vétusté inimaginable. Donc les conditions de soins sont absolument déplorables. Les femmes accouchent par terre. Il n'y a pas de lit. Elles sont mélangées avec les hommes qui viennent aussi au poste de soins. Il n'y a pas d'intimité. Donc c'est un projet qui tient la route et qui répond à un véritable besoin. Le problème, c'est d'arriver à trouver le financement. Parce que je disais tout à l'heure que notre budget annuel tourne entre 6 et 7 000 euros. Le budget total de l'opération, les trois logements, les deux logements plus la maternité, ça représente plus de 37 000 euros.
Oui.
Donc il nous faut trouver des financements en dehors de ceux dont nous bénéficions habituellement. Et c'est le nerf de la guerre et c'est là le principal obstacle à la construction de la maternité. Ouais.
Alors on essaye sur une plateforme de recueillir des fonds pour ce dossier. Bon, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu en stand-by à cause de l'Ukraine, mais on va repartir pour essayer d'avoir la participation de tous ceux qui le désirent. Quoi.
Voilà. Alors, moi, je pensais aux hôpitaux publics qui ferment des lits. Est-ce qu'il n'y a pas des lits à récupérer dans les hôpitaux ?
Alors, si, bien sûr. Alors, ça, justement, ce que je vous parlais tout à l'heure, on a un rapport avec l'hôpital de Saint-Louis,
oui.
qui nous donne les besoins de matériel, parce que c'est bien, on va faire la maternité si on l'a fait, enfin, on espère la faire. Et après, il faut mettre du matériel. Donc, est-ce que Saint-Louis peut en donner ? Est-ce qu'il en a ? Ou s'il n'en a pas, est-ce que nous, enfin bien sûr, essayer d'en récupérer pour en donner, oui, ça c'est possible. On a déjà fait des demandes à une association de maternité qui change leur matériel. Donc essayer de récupérer. Mais après, bon, il faut aussi de l'argent pour pouvoir l'envoyer là-bas.
Oui, il y a toujours l'envoi.
Et il faut que ça arrive bien là-bas. Autre problème.
D'accord.
C'est pas toujours facile.
Et le coût du transport est un gros handicap.
Parce que vous avez des conteneurs qui arrivent en Afrique parfois, mais... ils arrivent en Afrique, puis ils ne sont pas ouverts. C'est pas facile à débloquer. J'ai d'expérience avec la ville de Meru pour des livres, pour les scolaires. Comme j'étais rotarien, on finançait le transport, mais des conteneurs étaient bloqués. Arrivés là-bas. Donc après, il fallait... Bon, alors, avec le Rotary, vous avez trouvé des Rotariens là-bas qui ont agi, interagi. Enfin, mais c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que
donc, les médicaments. Il y a un suivi à faire jusqu'au bout.
C'est pour ça que pour les médicaments, on les achète directement là-bas. Là, on est quand même beaucoup plus sûr.
On espère vraiment arriver à réussir parce que ça répond à un véritable besoin. Le nombre de personnes desservies par le poste de santé dépasse les 20 000. Et il y a environ 20 accouchements par mois, donc 250 accouchements par an, ce qui veut dire qu'il y aurait en permanence dans la maternité au moins deux ou trois personnes en voie d'accouchement ou ayant déjà accouché. Donc c'est pourquoi il faut un local quand même avec au moins une salle d'accouchement et deux pièces où les femmes... les parturientes puissent être accueillies. Donc, ça représente un coût très important.
Juste, je veux revenir un petit peu sur votre association. Quel est le profil des gens qui participent, qui sont adhérents à votre association ? Est-ce qu'il faut être pharmacien ou c'est obligatoire ou pas ?
Dans notre association, donc. Dans notre bureau, le président doit être pharmacien. Ça, c'est bon. Par contre, tous les autres membres ne sont pas obligés d'être pharmaciens. Donc, dans notre association, on a quand même, c'est vrai, beaucoup de pharmaciens retraités, mais on a aussi des préparatrices retraitées, puis même des personnes qui n'ont rien à voir avec la pharmacie, qui nous donnent, je pense, à Richard, entre autres.
Hein, oui, notre ami Richard.
Notre ami Richard. Le manuel, mais je vais vous dire, il nous donne un coup de main fabuleux. Et voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas assez nombreux, je dirais. Mais bon, c'est pour ça que dès qu'un pharmacien est retraité, on saute sur lui pour aller le chercher. Viens nous aider. Bon, et là, il y en a un autre. Bientôt, il y en a deux qui vont rentrer. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoirement des pharmaciens. Ceux qui ont du temps, qui habitent dans la région de Creil, parce que bon, on est à Creil, c'est quand même plus facile.
Oui, c'est votre social de Creil.
Voilà, c'est quand même plus facile. Et ils peuvent nous rejoindre. Il y a du travail.
D'accord. Est-ce qu'un écrivain sociologue pourrait participer ?
Ah, bien sûr, bien sûr.
Aucun problème. On lui explique comment différencier une radio numérique et non numérique, et c'est avec ça, ça on y arrive.
Le pauvre Alain, je le mets dans l'embarras, il est déjà très occupé. Alors, Alain, qu'en penses-tu ?
Non, mais en revanche, il y a un stock de radio à la maison, et je ne sais pas comment faire, et maintenant je sais quoi en faire.
Vous l'amenez ici, et moi, comme je viens de temps en temps à Crépy pour des raisons familiales, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je passerai ici le chercher, il n'y a aucun problème.
Oui, parce que les auditeurs ne savent pas, mais Patrick a de la famille qui tient une pharmacie sur Crépy en Valois. Voilà.
Très bien.
On ne va pas tout dévoiler. Hein.
Non, on ne va pas faire de publicité parce que les confrères ne seraient pas d'accord.
Et donc, les gens qui se sentent, qui ont un peu de temps, qui se sentent l'âme de bénévoles, peuvent nous contacter soit par mail, soit par téléphone, le téléphone de notre président ou le mien, ou via le site, sur le site PHI Oise. Nous avons aussi une page Facebook, une page LinkedIn. Qu'ils nous contactent et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Alors, on va préciser PHI, hein, donc Pharmacie Humanitaire Internationale
Oise.
Voilà. Oise, voilà.
L'adresse mail, si je peux
oui,
la donner.
Oui, on peut la donner.
PHI Oise, tout attaché, @gmail.com. C'est tout simple. PHI Oise, @gmail.com.
Eh bien, on fera un lien avec le Facebook de la radio, voilà.
Voilà. Ouais. Et sinon, l'adresse postale, 14 rue Charles Somasco, 60100, Creil. 14 rue Charles Somasco, Somasco.
Voilà. Formidable. A-t-on des choses à préciser pour les auditeurs ? On a tout fait le tour ou il y a encore des choses à préciser ?
Rappelez que les gens peuvent surtout continuer à apporter des dispositifs médicaux, des pansements, des couvertures de survie, qu'ils achètent des médicaments, des antiseptiques, tout ce qui peut servir dans un hôpital en situation de guerre, dans leur pharmacie. Et nous, on se charge de les transmettre à Beauvais. Et puis... toujours faire des dons sur le site de notre association nationale, www.phi.asso.fr.
Alors, une petite précision sur les dons. Les dons sont, comme tous les dons donnés en France, ils sont déductibles fiscalement.
Ah, important de préciser.
C'est quand même important. Mmh. Si vous donnez 100 euros, ça vous revient, je crois...
33 euros.
33 euros.
Voilà.
Donc, 66% c'est quand même, vous donnez 100, mais ça ne coûte que 33. Mmh. C'est quand même intéressant, ça. C'est,
et puis on est sûr que les achats qu'on fait dans la pharmacie, on est sûr que les produits qui sont envoyés là-bas, ils sont de...
Oui, alors justement, pour Beauvais, donc, on est en relation avec l'hôpital de Beauvais. Hein, donc, et là, on est sûr que ça... Bon, oui, il y a déjà 3 semaines qui sont partis. On est sûr que ça part. Moi, j'étais voir personnellement le centre de tri, ses palettes triées, etc. Voilà. Donc on est sûr que ça part au bon endroit. Et ça sera bien utilisé. C'est ça qui est important.
Voilà.
Parce que des fois, on peut être de bonne volonté.
Oui, puis être déçu parce que ça ne va pas à la personne qu'on souhaite.
On a des exemples un peu.
Arrive,
quand il y a eu le tsunami, il y a eu beaucoup de choses envoyées. Et après, il y avait des reportages où il y avait des tonnes de produits qui ont été bons. Bah, voilà. C'est parce qu'il faut... il faut une infrastructure quand même.
C'est,
la bonne volonté, c'est une chose, mais après, il faut qu'elle soit structurée.
Oui, j'en parlais au tout début, tout à l'heure. Il est important, dans l'humanitaire, de s'assurer de la qualité du partenaire dans le pays avec lequel on est en relation. C'est essentiel, parce que pour éviter les phénomènes dont parlait Patrick.
Est-ce que vous avez... Votre siège social est à Creil. Est-ce que vous avez un local pour recevoir des gens ou non?
Oui, on a un petit local, oui.
Oui.
C'est un petit appartement dans cette résidence Somasco, oui. Je vous dis que prêté gracieusement par la ville de Creil, prêté, et puis en plus, ils nous payent l'électricité, ils nous payent tout, quoi. Donc c'est formidable.
Oui,
on
c'est...
a vraiment il y a un local gratuit entièrement.
C'est une subvention qui est quand même intéressante, alors oui.
Plus une subvention qu'ils nous donnent.
En plus, et bien.
Alors avec Creil, on a fait quand même des actions pour, plus précisément, au moment de la Covid, on a fait des distributions de gel antibactérien, de produits d'hygiène, de brosses à dents, savon, etc. Et pour les étudiantes, serviettes périodiques, etc., etc. On a fait quand même on a acheté des produits et on faisait des lots et on a distribué avec le social,
le SAMU social
de Creil, on distribuait dans les environs. Voilà. Donc, et il a fallu rien, il nous restait encore des produits dans notre local. On a été donné à l'épicerie sociale de Creil. Ils ont une épicerie sociale, on était leur donné. Et comme ça, ils peuvent les distribuer gracieusement aux gens qu'on en ont besoin.
Très bien. Alain, une question avant qu'on se quitte ?
Moi, je suis admiratif toujours de ce genre d'action parce qu'elle ne se voit pas, on n'entend pas. Et pourtant, il y a des choses qui arrivent sur des zones de guerre. Il y a des choses qui arrivent tout près de chez nous pour les gens qui en ont besoin. Et je suis admiratif et merci. Merci à vous.
Ouais, écoutez, c'est...
Oui, vous voyez, ça redore le blason du pharmacien qui, parfois, est considéré comme un commerçant. C'est vrai, c'est un commerçant, c'est un commerce, hein, il n'y a pas de problème. Mais, fur et à mesure, dans l'avancée de notre époque, le pharmacien a de plus en plus de fonctions. Entre autres, la vaccination, etc., Covid, vaccination anti-grippe, etc. Et ça, c'est, le pharmacien doit devenir... Bien sûr, il sera toujours commerçant, il vend des produits. Mais ça doit être un serviteur, servir le social, la santé, servir aussi. Pas seulement un commerçant qui vend un produit comme ça, le service. Et ça, je crois que c'est le plus important. Et si notre profession doit persévérer, veut durer dans le temps, c'est comme ça. Il faut qu'il soit ouvert vers le social.
Eh bien, on va se quitter avec ces mots du président. Merci Patrick Gariot, le président de l'association.
On vous remercie de nous avoir reçus, c'est très gentil de votre part.
Voilà. Merci à Pascal Rossignol, le vice-président.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
On rappelle l'association Pharmacie Humanitaire Internationale, donc OAS.
Oui.
Voilà. Messieurs, merci Alain de ta participation. Merci Luc à la technique. Rediffusion de l'émission le dimanche à partir de 16h et le mardi à 10h. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
C'était une émission de la rédaction de RVM.